9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Bruno de Stabenrath.
Bonjour.
Vous avez d'abord été comédien, scénariste, vous êtes devenu célèbre à cause de votre histoire personnelle tragique, hélas, un accident de circulation en 96 qui vous laisse tétraplégique. Vous avez raconté cette expérience dans un roman flamboyant, Cavalcade, qui est devenu un best-seller, puis un film. C'était en 2005. Avant cela, vous avez grandi à Versailles, au milieu des grandes familles aristocrates ou aristocratiques. Et parmi vos amis de jeunesse, parmi vos potes, il y a le fugitif le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès. C'était votre pote, un ami de la famille. Vous étiez en classe ensemble en terminale. Vous racontez tout cela et également l'enquête que vous avez menée depuis le quintuple meurtre de Nantes en 2001 dans un roman ou un récit. Ça s'appelle L'ami impossible, c'est chez Gallimard. Double question, pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi maintenant? Je précise qu'une dizaine d'éditeurs vous avaient demandé évidemment de l'écrire.
Le crime, c'était en 2011.
Pardonnez-moi, enfin, 2011, vous avez raison. Ouais.
Déjà pour une première raison, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas rendu justice à Agnès et aux quatre enfants. Aujourd'hui, Arthur aurait 30 ans, Thomas 28 ans, Anne 26 et Benoît 23. Donc on ne leur a pas rendu justice et l'assassin court toujours. Ouais. Donc pour moi, c'était important de remettre ça dans l'axe.
Déjà, je vous arrête pour dire, déjà vous les appelez par leur prénom, ce qui montre que vous les connaissez.
Je les ai connus petits. Ouais. Et puis aussi pour faire bouger les lignes. C'est-à-dire, je pense que ce livre va réveiller des consciences. Je pense qu'il y a des gens qui savent des choses et qui doivent parler. Et puis, c'est vrai que j'ai attendu, ça fera 10 ans maintenant depuis les crimes, et il fallait que je retrouve des gens, les gens de l'époque, les gens du groupe de prière Philadelphia. Mmh. Il y avait quand même pas mal de gens autour de cette histoire. Et puis, tout le monde a été un peu sidéré. Et puis, il faut dire aussi que dans un premier temps, quand on a su que c'était bien les corps, quand on a su que Xavier avait disparu, qu'il se cachait quelque part, peut-être, enfin, moi, j'en suis persuadé, il y a plein de gens qui nous ont tourné le dos. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient horrifiés par les crimes, qui se sont dit « Ok, les enfants sont morts, Agnès, les quatre enfants, Xavier est en fuite, mort ou vivant, peu importe. » On met la poussière sous le tapis. Et moi, je ne pouvais pas me résoudre à ça.
Pourquoi dites-vous qu'ils nous ont tourné le dos? Vous faites partie du clan?
Non, mais parce que moi, j'ai essayé de retrouver un peu tout le monde et j'ai vu que... Mais je le comprends aussi, c'est-à-dire que les gens étaient horrifiés par cette histoire. Les gens de Versailles et puis les gens du premier...
Non, mais je veux dire par là, à vous aussi, on a tourné le dos?
Oui, disant Bruno, mais pourquoi ça t'intéresse? Ils sont morts. Enfin, moi j'ai trouvé ça horrible, quoi. J'ai dit, mais non, moi je veux savoir la vérité. Et puis surtout sur Xavier, savoir où il se cache.
Évidemment, vous le connaissiez bien, vous en parlez au présent. Vous le connaissez bien et également ses amis, Emmanuel Tonneur et Michel Rétif. Ouais. Michel, vous l'appelez Micha dans le livre, pour quelle raison?
Pour des raisons juridiques, et puis parce que à l'époque où j'ai commencé à écrire, il était encore vivant. Tous les deux sont morts. Emmanuel Tonneur, je l'ai retrouvé après pas mal d'années parce qu'il avait fui Nantes. C'était le parrain de Thomas. C'était le meilleur ami de Xavier pendant 37 ans. Et on est resté pendant presque 2 ans au téléphone, pratiquement tous les jours. On faisait une forme de psychothérapie. Puis moi, j'avais besoin d'avoir des éléments pour mon enquête. Et il est mort d'une façon très triste. Il est mort au moment justement où Society imprimait son magazine. Et puis moi, il m'a fait la promesse de continuer l'enquête et d'essayer de savoir la vérité, donc voilà.
Puisque vous parlez de Society, ouais. J'imagine que vous avez tout lu, tout ce qui a été publié sur Xavier Dupont de Ligonnès. Est-ce que vous êtes servi des infos de cette grande enquête publiée cet été en 2 volets dans Society?
Non, pour la bonne et simple raison, c'est que moi, mon livre était terminé un peu avant, ouais. Et que tout ce qu'il y a dans Society était déjà dans mon livre. Je les connais un peu, et puis ils se sont surtout appuyés sur l'enquête à partir d'avril 2011, toute l'enquête, les procès-verbaux, les auditions, les procès-verbaux, jusqu'en juillet 2011, parce qu'il faut bien dire une chose, à partir de quand Xavier disparaît le 15 avril et après la fin des recherches à Roquebrune-sur-Argent où les pompiers, les secouristes, les gendarmes essaient de retrouver le corps de Xavier, on n'a plus de son, plus d'image. Les deux seules choses qui arrivent depuis 2011, les deux seuls événements, il y a l'enquête préliminaire sur le groupe de prière Philadelphia, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, en 2019, quand il y a une enquête préliminaire sur la mère et la sœur de Xavier pour détournement d'héritage et dérives sectaires, ça ne faut pas l'oublier. Ouais. On se dit qu'ils sont toujours là dans le business Philadelphia, et l'affaire Joao. C'est les deux seuls événements, mais l'affaire Joao, elle est très intéressante.
La vraie fausse arrestation...
Oui, mais c'est intéressant de savoir...
Pourquoi c'est intéressant?
Parce qu'on n'a pas remonté le fil, on n'a pas su pourquoi on avait choisi ce type-là, pourquoi on avait eu plein d'éléments qui étaient quand même très intéressants. On savait que ce type-là avait perdu son passeport, qu'il lui manquait une phalange au doigt, donc ouais. Pour les empreintes digitales, ce qui a créé un peu la confusion. Et puis surtout, on avait tout le dossier de Xavier. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur l'enquête, chaque année, il y a 50, 100 personnes qui reconnaissent Xavier, qui alertent les douanes, la gendarmerie, la police. Là, pourquoi cette affaire, elle a explosé comme un feu de paille?
Parce que c'était pas lui. manifestement, c'était pas lui. Même l'écartement des yeux ne correspondait pas.
Bien sûr, mais c'est ridicule. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi la police aujourd'hui n'a pas dans son fichier 5-6 personnes qui connaissent parfaitement Xavier, et ils vous envoient le fichier JPEG, la vidéo, ils vous disent c'est Xavier ou pas. En 5 minutes, l'histoire elle est résolue.
Peut-être que maintenant ils l'ont. Juste un mot, c'était assez rare pour être signalé. Society a fait parler tous les proches, sauf vous. J'imagine que c'est vous qui avez refusé de leur répondre, ou est-ce que ce sont eux qui ne vous ont pas contacté ?
Non, mais je les connais, mais moi ça tombait mal. Et puis,
Donc c'est vous qui avez dit non ?
Oui, j'avais rien à leur dire.
Comment vous avez travaillé ?
Depuis 9 ans, c'était un puzzle absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des noms. Alors, je parle dans le livre d'un document assez marrant, qui est le fameux Bottin Mondain.
Ouais. Non, même je vais dire, à Paris, vous écrivez, à Paris, courant mai, donc quelques mois après le meurtre, quelques semaines, je recueillis beaucoup d'informations à mesure que l'enquête prenait de l'ampleur. Et vous avez également travaillé avec des hackers.
Oui, parce qu'il y a ce fameux Christophe Lavérité qui a... parce qu'en fait, c'était en trois mouvements. Le premier mouvement, je le raconte dans le livre, c'est le fils d'un copain qui fait Audencia à Nantes, qu'à l'âge de Thomas. Et je lui donne le numéro des Ligonnès en disant « Fais-toi inviter à dîner », tout ça. Puis j'ai pas de nouvelles, comme quand vous voulez mettre des adolescents, voilà. Et lui m'appelle en avril 2011, me dit « Bruno, tu sais, ta famille, les Ligonnès ?» Je dis « Alors, tu les as vus, t'as dîné, ils sont sympas. » Il me dit « Non, ils ont disparu. » Et donc, il faut savoir que quand les quatre enfants disparaissent, c'est tous les réseaux sociaux, il n'y a plus de son, plus d'image. Et donc, je lui dis, mais ils disparaissent, c'est-à-dire quoi ? On n'a plus, la maison est fermée, tout ça. Et lui faisait un peu partie de la même bande qu'Arthur. Et là, je commence à me dire, ils sont partis en voyage. Et puis, la deuxième information, c'est quand on va trouver les corps, le vin. Donc, à ce moment-là, on sait très peu de choses, quoi.
Vous avez une thèse ? Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant. Vous restez avec nous, Bruno Stamenrath. Vous nous direz pourquoi, vous nous direz plutôt ce qui vous fait dire ça et l'endroit où vous pensez qu'il se cache, l'endroit ou les endroits. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec l'écrivain Bruno de Stamenrath qui publie chez Gallimard L'ami impossible. Et cet ami impossible, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, accusé. On imagine que c'est lui, mais enfin, il n'y a aucune preuve. On n'a pas l'arme du crime d'un quintuple meurtre à Nantes. Vous avez une thèse. Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
C'est une conviction intime, et dans les affaires criminelles, la conviction intime et l'intuition, elle est fondamentale. Et puis parce que je le connais bien, parce que quand j'ai retracé un peu tout son mode opératoire, on voit qu'à peu près un an et demi avant les crimes, il sait qu'il va dans le mur. Et puis c'est ce que je dis, c'est à la fois un crime domestique, parce que c'est un crime familial, mais c'est un crime altruiste. C'est-à-dire qu'il estime que tuer sa famille est la meilleure solution pour lui. Et donc...
Je vous interromps là-dessus, parce que c'est un terme que vous empruntez aux criminologues. Qu'est-ce qu'un crime altruiste ?
C'est-à-dire, je suis
altruiste, ça veut dire, je dis ça précise, faire du bien aux autres.
Faire du bien. C'est un peu comme l'affaire John List aux États-Unis, c'est-à-dire, je supprime ma famille parce que j'estime que c'est la meilleure solution pour eux, pour ne pas supporter la honte, le déshonneur, ce qui est terrible d'ailleurs. Vous vous dites, mais comment un homme qui aime sa famille peut arriver à ce point-là ?
Parce que vous écrivez, vous dites qu'il aimait sa famille, vous écrivez, je savais, et ses confidences lors de nos déjeuners parisiens le prouvaient, une chose essentielle sur Xavier, il aimait Agnès et il adorait ses enfants, c'était un vrai père à l'ancienne. Qui prenait son temps et sa plume pour remettre ses galopins dans le droit chemin.
Oui, parce que j'ai récupéré tous les courriers de Xavier. Il y a plus de 700 pages sur les sites catholiques, mais aussi toutes les lettres qu'il écrivait à Arthur et à Thomas. Et quel père prend son temps pour écrire à son fils, pour lui dire « Écoute, Arthur, ça va pas du tout, tu te comportes très très mal. » Et puis, il faut pas oublier que quand il épouse Agnès, c'est une fille mère. À l'époque, à Versailles, ça se faisait pas, quoi, d'épouser une femme qui a eu un enfant avec un autre homme. Quoi.
C'était son ex.
C'était son ex.
Parce qu'il y a plein d'histoires d'amour.
Oui, mais pas tant que ça, parce qu'on dit que Xavier est un grand séducteur. Pas du tout. Xavier, il a eu 5, 6, 7 femmes dans sa vie. C'est pour ça qu'il est tombé de sa chaise quand il a découvert qu'il avait été trompé. Xavier, c'était un mec sérieux. En amour, Agnès était la femme de sa vie, même s'ils avaient des gros problèmes de couple.
Il vous en avait parlé ?
Très peu, mais je savais. Enfin, Xavier, on se comprenait sans se parler. Et puis, quand je lui demandais, quand on se voyait, quand on déjeunait 2-3 fois par an, porte d'Auteuil, je lui demandais des nouvelles. Je voyais à sa façon d'éluder ses réponses que ça marchait pas trop, quoi.
On a bifurqué. Je vous posais pour savoir ce qui vous est dire qu'il était toujours vivant. Et vous dites s'il n'était pas homme à vouloir se donner la mort.
Oui, parce que je pense que dans les crimes altruistes, justement dans les crimes domestiques et altruistes, quand quelqu'un tue sa famille, il y a à peu près 100 cas par an en France, les gens se tuent après. C'est-à-dire, Xavier, qu'est-ce qu'il fait ? Xavier, il cache les corps, mais il cache les corps d'une façon absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il veut gagner du temps, il pense qu'on ne va pas trouver les corps. Et s'il ne s'était pas trompé dans la formule de ciment, on n'aurait jamais retrouvé les corps.
Ça, c'est complètement incroyable. Vous racontez ça. Donc, il s'est trompé sur le dosage de l'eau dans le ciment. Ce qui fait que le ciment ne durcit pas assez vite.
Il était friable. Et quand la cinquième visite, quand le matin du 21 avril, la police, mandatée par le procureur, fouille le jardin, heureusement que le ciment était friable. Le ciment aurait été dur, il serait passé à côté, quoi. Et puis après, il y a la fuite à Roquebrune-sur-Argent, où pareil, pour moi, Xavier, c'est un joueur d'échecs. C'est-à-dire qu'il sait très très bien que s'il disparaît à Roquebrune-sur-Argent, où il y a des vallées, des montagnes, des rivières, les secours vont passer un mois, et c'est ce qui s'est passé, à le rechercher. Donc il avait pratiquement presque un mois d'avance sur la police.
Là, vous avez une thèse, et là, c'est très très précis. Sitôt quitté l'hôtel Formule 1 de Roquebrune, page 484, je dis ça pour ceux qui ont la flemme de lire les livres en entier, le vendredi 15 avril, il saute dans un TGV direction Paris, puis correspondance pour la Hollande, le port de Rotterdam, pour embarquer sur un cargo de fret pour traverser l'Atlantique ou l'océan Indien via Gibraltar. Il y a 3 départs par mois en direction de la Malaisie et 3 départs pour l'Amérique du Sud. Vous donnez même les prix des billets. Pourquoi davantage, selon vous, il voyagerait en cargo plutôt qu'en avion ?
Parce qu'à mon avis, d'abord le cargo, c'était un de vieux fantasmes d'étudiants. Parce que comme on voulait partir aux États-Unis, faire la route 66, qu'on avait très peu de budget, on se disait le cargo, c'est magnifique. Puis avoir le temps, c'est quand même magnifique de passer 3 semaines sur un cargo avec des marins philippins et un capitaine grec. Donc c'était un peu notre fantasme. Donc tout ça, ça m'est revenu quand je pensais que Xavier était en fuite. Et puis, parce que je pense que s'il entraîne, pour moi, c'est un calcul, s'il entraîne les gens. Alors on ne sait pas pourquoi il va dans le sud. Hein, ouais. Est-ce qu'il va chercher un passeport, j'en sais rien, mais pour moi c'était vraiment pour piéger les enquêteurs,
une fausse piste,
et partir
oui.
à l'autre bout, et puis avec, je pense, un
oui,
faux passeport.
Ce que vous dites, à Roquebrune, on le voit, il est absolument tranquille, il se cache pas du tout, il porte même quelque chose dont on peut penser que c'est la carabine,
oui,
et puis il y a plein de monastères autour, et il sait que ça va être des os arrangés pour la police.
D'ailleurs, ça va, oui, ça. Et puis en même temps, c'est un espèce de clin d'œil terrible qui fait aux enquêteurs, genre vous me retrouvez jamais, quoi.
Alors vous avez une thèse, vous donnez une piste sur l'endroit où il se trouve, selon vous, la zone des trois frontières, expliquez.
Ben non, mais en fait, ça, c'est des informations que j'ai eues d'ailleurs au mois d'août, avant qu'on trouve Joao en octobre à Glasgow. C'est pour ça que ça m'a alerté, cette histoire, de gens plutôt sérieux, comme quoi il avait été repéré. Mais moi, je suis comme Saint Thomas, il n'y a pas une photo. Et quand le type m'a dit, mais tu sais, il était logé dans le nord de la Thaïlande. Alors, je sais que la Thaïlande, c'est un pays où il y a beaucoup de pédophiles qui s'y cachent, un pays où il n'y a pas d'extradition, c'est un pays où la police est corrompue. Et puis Xavier, il est tout à fait capable, il a tout à fait la capacité de créer son propre écosystème. Ouais. On dit souvent, mais il faut de l'argent pour une cavale et tout ça. C'est quelqu'un qui est capable de séduire une famille. Et donc, je me suis dit, oui, il y a une cohérence, c'est-à-dire qu'il est près de la frontière, de 3 frontières.
Allez-y.
C'est-à-dire qu'au cas où il est repéré par la police, il peut passer en une
nuit,
il change de pays.
Et les 3 pays, en l'occurrence,
Laos, Cambodge et Vietnam. Donc, c'était crédible, quoi. C'était... on est obligé de tout écouter, de tout entendre.
Vous pensez qu'il est toujours vivant, Bruno de Stamenra.
Ah oui.
Est-ce que vous pensez que Xavier de Ligonnès, que vous l'appeliez de Ligonnès et pas Dupont, c'est dans le livre aussi, est-ce que vous pensez qu'il va lire votre livre ? Le dernier chapitre, d'ailleurs, lui est dédié, il s'adresse à lui.
Philippe, ça fait presque 10 ans que je vais écrire à Xavier. J'ai écrit dans Le Parisien, dans Suez Magazine, dans La Règle du Jeu. Je parle à lui parce que j'aimerais, enfin je suis peut-être candide, mais qu'il entende ma voix.
Et peut-être qu'il nous écoute en ce moment. Merci beaucoup Bruno de Stamenra. Je rappelle, L'Ami Impossible, c'est chez Gallimard.